Eh bien, il y a une invitation à ne pas manquer, et c'est de ça qu'on va parler cet après-midi. Et cette invitation, on le trouve dans le premier évangile qui a été écrit, c'est l'évangile de Matthieu. Et Matthieu était donc un des apôtres qui a été appelé par Jésus. Il faisait pas un travail très très génial, hein, enfin. C'était un péager, donc un collaborateur avec les Romains qui oppressaient le peuple juif. Matthieu était un juif, mais donc il prenait les impôts de ses compatriotes, les juifs, et il remontait un petit peu le quota des impôts pour s'enrichir. Donc en fait, il volait les juifs, et en plus, il ramassait l'argent pour les Romains qui étaient en fait... Les oppresseurs, ceux qui dominaient sur le peuple juif. Donc, c'était pas un homme très fréquentable. Et pourtant, Jésus l'a invité un jour. Et il a répondu tout de suite et il l'a suivi. Et sa vie a été transformée. Et plus tard, il a continué à suivre Jésus. Et entre autres, il a écrit donc cet évangile, l'évangile de Matthieu. Pour justement, pour la propagation de l'évangile, c'était important de mettre sur écrit ce que Jésus avait fait. Donc, c'est un évangile très particulier parce que c'est le premier qu'on a mis dans le Nouveau Testament parce que c'était probablement le premier écrit. Et donc, on voit que Matthieu, dans cet évangile, il est très effacé, il parle peu de lui, alors que l'évangile de Luc peut-être parle plus de Matthieu en lui-même. Et il veut juste montrer Jésus. Il veut montrer ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. Et au chapitre 11 donc de Matthieu, on arrive à une période du ministère de Jésus. Il a fait des miracles divers. Il a guéri et puis il a fait aussi des discours. Des miracles comme le fait de faire entendre les sourds, de redonner la vue aux aveugles. Et il y a un homme, Jean-Baptiste, qui se retrouve en prison. Lui, il sait qu'il devait annoncer la venue du Messie, hein, mais il se retrouve en prison. Alors, on pense qu'il y a eu un moment de doute. Et puis, il se demandait vraiment si Jésus, c'était lui le vrai Messie ou alors s'il y en avait un autre qui devait arriver. Et parce qu'il y avait souvent des envoyés ou des prophètes qui annonçaient un peu la venue de Jésus. Jean-Baptiste attendait, lui, à ce que Jésus vienne, règne, délivre le peuple de l'oppression des Juifs et que Jésus soit établi, ou le Messie, le roi de la terre, et que les Juifs soient délivrés, quoi. C'était le salut qu'il attendait. Et là, il se retrouve en prison, donc c'est quand même... mal barré pour ça. Et puis, il pose cette question. Et les disciples de Jean vont voir Jésus dans Matthieu 11 et ils lui posent cette question de la part de Jean-Baptiste. Et Jésus leur dit, mais regardez ce qui se passe, les miracles que je fais. J'ouvre les yeux. Allez le dire à Jean le Baptiste. C'était ce qui était annoncé dans les prophéties. Et Jean-Baptiste connaissait l'Ancien Testament. Il savait que le Messie viendrait. Il ouvrirait les yeux. Il guérirait les malades, il apporterait une bonne nouvelle aussi pour le cœur des gens. Et voilà, c'est donc ce qu'il dit. Donc, en quelque sorte, son autorité, il est mise en doute, là, au chapitre 11. Et il n'y a pas que Jean le Baptiste, hein, parce qu'ensuite, il fait des reproches. On ne va pas lire, mais je vous encourage à lire tout le chapitre 11, parce qu'ensuite, on s'arrêtera à la fin du chapitre. La deuxième chose, c'est qu'il s'adresse à la génération, aux Juifs qui sont un peu autour de lui, et lui disent, mais qui est-ce que vous êtes allé voir quand Jean le Baptiste était en train de baptiser là-bas? Est-ce que vous attendiez à voir quelqu'un avec des habits précieux? Non, ça vous l'aurez pas trouvé, il fallait aller dans un palais. Il dit, c'est un prophète que vous êtes allé voir, et même plus qu'un prophète. Donc, quelque part, ces Juifs de cette époque-là n'avaient pas reçu trop le message de Jean le Baptiste. Jésus leur reproche ça. Et il lui reproche aussi de ne pas recevoir son message, malgré les miracles qu'il faisait. Et, Et donc, même un peu plus loin, on voit que Jésus annonce un jugement sur des villes où il est allé et il a fait des miracles. Et c'est très très dur parce que il dit, mais si des villes comme Sodome et Gomorre, et Sodome et Gomorre, ça dans l'Ancien Testament, c'était des villes qui ont reçu un jugement très très dur, hein, le feu est du ciel est tombé sur ces villes-là, elles ont été jugées très durement. Il dit, mais si les miracles que j'ai fait dans ces villes-là, c'était passé à Sodome et Gomorre, les gens se seraient repentis. Alors, votre jugement sera même pire, quoi. Donc, il est très, très, très dur, parce qu'en même temps, il était là et il montrait toutes les preuves qu'il était le Messie. Mais le problème, en fait, c'était que les gens ne voulaient pas croire. Hein, il y avait un certain orgueil. Et donc, ça les coupait complètement de recevoir et de voir que Jésus-Christ était Fils de Dieu, le Messie. Et quand on lit aussi dans Romains, Paul reprend un peu cette idée-là, cette idée que Dieu, l'idée de Dieu, la révélation de Dieu est manifeste. Que si les gens ne croient pas en Dieu, c'est parce qu'ils ne veulent pas croire. Et dans Romains, on va voir chapitre 1 ou 2. Chapitre 1 et verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Et on aura ce terme un peu inexcusable qui se retrouve à plusieurs endroits. La création montre qu'il y a un créateur. Déjà. Ensuite, plus loin, on ne va pas lire les passages, mais la conscience aussi. Le fait que la conscience nous rappelle à l'ordre, quoi, nous montre que Dieu existe, que il y a un juge quelque part. En plus, là, à l'époque, de voir Jésus faire tous ces miracles et puis, quelque part, de le rejeter, c'est peut-être encore pire. Je ne sais pas si c'est encore pire parce que, en même temps, Dieu révèle à chaque époque qui il est. Mais ça devait être quand même particulier d'avoir Jésus au milieu de nous et en même temps que les gens ne voyaient rien, quoi. Donc, on peut dire vraiment que, oui, l'orgueil, c'est peut-être l'ennemi le plus grand de l'homme. Parce que ça le coupe complètement de toute révélation de Dieu, quoi. Parce qu'il se place à la place de Dieu. Et donc, on est un peu dans ce cadre-là, où Jésus reprend différents types de gens. Et puis, ensuite, on va le lire ensemble au verset 25. Il y a un contraste avec les paroles de Jésus maintenant. Donc, chapitre 11 et au verset 25. Chapitre 11 de Matthieu, verset 25, pardon. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et je trouvais qu'il y avait vraiment un contraste énorme entre tous les reproches qu'il fait, même les jugements qu'il déclare à cause de l'orgueil, de l'incrédulité des gens, et puis finalement la solution qu'il apporte aux gens de l'époque, mais après, je dirais pour nous aussi. pour ces gens qui étaient peut-être troublés, qui attendaient en fait un roi qui allait régler tous les problèmes politiques, sociaux de l'époque, ben en fait là, il amène une solution sur un autre niveau. Là, c'est un niveau spirituel. Venez à moi, premièrement. Peut-être que le contexte politique, social ne va pas changer pour les gens, et là c'est évident, hein, ça ne va pas s'arranger, mais sa solution c'est de venir à lui. Et puis donc il parle aussi de l'attitude de cœur, il dit que cela est révélé aux enfants et pas ceux qui sont sages ou intelligents selon ce monde. Donc moi je me suis dit, mais la solution est facile. Et en même temps, si on refuse cette solution, on se met sous un jugement, sur quelque chose de terrible. Et je trouvais que c'était c'est un petit peu comme l'histoire de Noé. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvé à l'époque? Il fallait entrer dans le bateau, croire que ce que Dieu avait dit allait arriver, et rentrer dans un bateau. Et donc la solution est très simple, mais en même temps, si on ne croyait pas, mais le jugement était terrible, quoi. Et je me disais, quel Dieu on a, quoi. Il aurait pu exiger des choses de nous, pour dire, ben écoute, je t'ai sauvé d'un jugement énorme, donc tu devrais faire ça, 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 pour payer quelque part. Mais c'est pas du tout l'attitude de Dieu, et c'est pas son cœur. Et en plus, il sait que tout ce qu'on peut faire, de toute manière, ne peut pas le satisfaire. Donc, on va voir cette invitation à ne pas manquer. C'est-à-dire, venez à moi, au verset 28. Et cette invitation-là, ces écritures, ces paroles, on les retrouve que dans cet évangile. On les trouve pas dans les autres évangiles. Alors c'est une invitation, c'est en même temps un commandement. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de venir. Mais en même temps, c'est comme si vous recevez une invitation. Vous venez, mais si vous venez pas, vous allez rater quelque chose. Et si vous venez, alors il y a quelque chose qui vous attend, de positif, de bon. Donc venez à moi. Il dit de venir à lui-même, à Jésus-Christ. Pas un système, pas un ensemble de règles à suivre. Là, en plus, il parlait à des Juifs, hein, il faut se remettre dans le contexte. Les gens avaient l'habitude de suivre la loi, toutes les règles pour plaire à Dieu et tout ça. Et là, il dit, venez à moi. Donc, c'est vraiment une personne, Jésus-Christ, et qui est encore vivant aujourd'hui puisqu'il est ressuscité des morts. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc ça, c'est une invitation à tous. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de condition. Enfin, il accueille tout le monde. Et ensuite, les termes qui sont utilisés sont intéressants. Donc vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est pour ça que je vous ai posé ces questions au début. Donc on reconnaît tous qu'on a des fardeaux, on vit tous. La vie nous apporte des fardeaux et des douleurs dans nos vies. Et donc on a deux termes. Vous tous qui êtes fatigués, on peut dire aussi, je ne sais pas s'il y a d'autres traductions, vous tous qui travaillez. En fait, c'est plus une voix active, quoi. Vous qui êtes épuisés à cause d'un travail pénible. C'est plutôt ça l'explication, la signification. Et qui êtes fatigués, là, c'est plutôt une voix passive. Vous avez reçu quelque part quelque chose qui vous a rendu fatigué, épuisé. Alors, quels sont un peu ces fardeaux? Quelles sont toutes ces choses qui nous fatiguent? Le mot pour être fatigué ou travaillé, peiné, on le retrouve dans Matthieu 6, 28. Hein. Quand il est dit, quand il est parlé des passereaux et des lys des vallées, il est dit, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Donc, ça parle toujours d'un travail pénible qui épuise. Et Et on a des fardeaux aussi qui sont causés parfois par nos mauvaises décisions. Hein, on va peut-être pas obéir à Dieu dans certains domaines, et puis ça va amener obligatoirement une lourdeur. Et puis on se dit, vu que c'est de ma faute, tant pis pour moi. Hein. Et qu'est-ce que Jésus nous dit là? Il nous dit, venez à moi. Vous êtes épuisé, vous êtes lourd, vous êtes, vous vous sentez coupable, eh bien, à cause de vos propres péchés. Hein. Ben, venez à moi. Ça, c'est encore cet appel de Jésus. C'est pas simplement le fait, je suis fatiguée parce que j'ai servi Dieu, donc je viens le voir. Mais en même temps, j'ai travaillé pour Dieu, donc je mérite quelque part de venir à lui. Non. Là, j'ai désobéi à Dieu. Quelque part, je l'ai offensé. Et lui me dit, viens à moi. C'est son appel et c'est sa solution, justement. Quand on a échoué, quand on s'est éloigné de Dieu de diverses manières, c'est l'appel que Dieu nous fait. C'est la première chose à faire. Pas essayer de rectifier le tir ou d'essayer de se racheter une bonne conduite, parce que c'est vraiment ce qui vient à notre esprit premièrement. Hein. Et ça nous épuise encore plus, parce qu'on va se dire, il faut que je travaille à nouveau pour quelque part gagner la faveur de Dieu. C'est pas comme ça. Jésus nous dit, viens à moi, parce que c'est justement, j'ai payé, je suis venu aussi pour ça. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a bouleversé de voir que dans ces termes-là, c'est pas simplement la fatigue que je reçois à cause simplement de la vie, que ce soit physique, émotionnelle ou quoi, mais c'est aussi une fatigue que j'ai causée par ma propre désobéissance. Et Jésus me dit malgré tout, viens à moi. Alors ça, j'arrive pas à le comprendre, mais en tout cas, je veux le croire, vraiment. Donc, il y a aussi les fardeaux de la vie. Comme on disait, il n'y a pas de remède magique au fardeau. La vie est faite de fardeaux, de fatigue. Et c'est pour ça que c'est dans Lamentations plutôt, chapitre 3 et verset 27, il est dit qu'il est bon pour un homme de porter le joug dans sa jeunesse. Et on verra un petit peu ce que veut dire le joug, mais ça va nous aider à porter les fardeaux. Mais parce que dans cette vie, il y a des fardeaux. Causés par nous-mêmes ou simplement par la vie, par les situations. Et le deuxième terme, donc le fait d'être chargé, ça c'est plutôt en fait les fardeaux qu'on reçoit de la part de personnes. C'est-à-dire, ça peut être un collègue du travail, ça peut être quelqu'un qui va nous harceler. Et donc, toutes ces situations-là, ça nous charge, ça nous fatigue. Donc, on subit un petit peu des injustices, et ça nous charge, et ça nous fatigue. Et ça, c'est plutôt ce terme-là, le second. Mais le premier, il était plus causé par nous-mêmes, quoi. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit? Donc, venez à moi et je vous donnerai du repos. Donc, c'est un cadeau, le repos que Dieu nous offre. Je vous donnerai du repos. Et le terme pour repos, que ce soit dans le verset 28 et aussi 29, c'est un terme dans le grec qui est anaposis. Et ça veut dire, c'est vraiment lié directement à un travail pénible. C'est arrêter de travailler. Parce que nous, repos, on se dit, je suis fatiguée, je me repose. Mais dans le mot même, on retrouve pas l'idée de travail, de labeur, et tout ça. Alors que là, oui, c'est vraiment, c'est la cessation d'un travail d'un labeur. Donc, Jésus nous donne ce repos. Et on peut dire que là, ça illustre bien ce que Jésus est venu faire en venant sur la terre et en mourant sur la croix. C'est un repos par le salut qu'il nous donne, un repos éternel. Lorsque nous croyons que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a payé la dette pour nous, tout ce que nous, normalement, on devrait peut-être payer à Dieu, Dieu l'a payé, lui, à la croix. il nous a rendus justes, il nous a rendus acceptables devant Dieu. Et il nous offre donc ce repos. Parce que quand on est réconcilié avec Dieu, quand il y a cette paix qui s'installe. Dans Romains 5, il est dit, on va le voir, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et ça, c'est bien sûr le premier repos dont tout être humain a besoin. Parce que sinon, il vit séparé de Dieu tout le temps. Et donc, quand il reconnaît son état et puis qu'il demande à Jésus-Christ justement qu'il soit son sauveur, eh bien, il y a cette paix qui s'installe, il y a cette réconciliation qui s'installe. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus de séparation et ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, le fait qu'il ait versé son sang pour nous et que on le croit, eh bien ça a rétabli cette relation avec Dieu. Donc c'est ce premier repos que procure le salut. Et c'est quelque chose de gratuit. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait devant un Dieu saint, parfait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour quelque part, être accepté par lui? C'était toujours ma question de tout temps, mais si Dieu existe, il est parfait et saint, moi, c'est évident que moi, non, je ne le suis pas. Comment est-ce que Dieu peut m'accepter? Et lorsque on m'a annoncé l'évangile et qu'on m'a expliqué pourquoi Jésus était venu sur la terre, pourquoi il était venu mourir sur la croix, que c'était pour moi, pour mes péchés, qu'il avait payé pour tous mes péchés. Et quand j'ai cru, j'ai demandé à Jésus vraiment qu'il soit mon sauveur, j'ai vraiment expérimenté cette paix, cette réconciliation. Et c'est pas une philosophie, c'est pas une théologie, c'est vraiment une vie. C'est pour ça que Jésus dit « Venez à moi ». Jésus-Christ, c'est vraiment une personne. Il faut la rencontrer chacun personnellement, quoi. Déjà pour le salut, puis après dans notre vie de tous les jours. Donc ensuite, au verset 29, ça va s'adresser là plutôt à la vie de tous les jours. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ça, c'est le verset 29. Donc, venez à moi d'abord au verset 28. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Mais après, dans la continuité, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc, un joug, peut-être certains sont familiers avec cette image, c'était une pièce de bois qu'on mettait sur des animaux. Et puis, ça épousait un petit peu la forme... l'épaule du cou, et puis ça se posait donc sur le cou des animaux, et ça leur permettait de porter donc une charge, mais sans se blesser, et en même temps donc la charge était moins lourde puisqu'il y avait cette pièce de bois qui était là pour équilibrer le poids et puis pour permettre donc de tirer la charge. Et le mot donc dans le grec pour joug, ça vous intéresse? C'est zugos. Z-U-G-O-S. Mais ce qui est intéressant, c'est la racine, en fait. Bon, la racine, c'est xognoumi. Bon, un truc comme ça. Et ça veut dire joindre. Et donc, un joug, il y a toujours dans le terme de joug, le fait que c'est pas un joug seul. C'est toujours joint. Il y a toujours, en fait, c'était deux animaux qui étaient unis, mis ensemble, et qui tiraient donc cette charge. Et ça veut dire aussi le terme même quand il est traduit. Où est-ce que j'ai ça? Joindre par un joug. Il y a une notion d'équilibre. Et Parfois, ce mot était traduit une paire d'animaux attachés. Ainsi. Donc, il y a toujours cette idée qu'il y a quelqu'un à côté. Toujours. C'est pas simplement le joug, quelque chose qui va nous aider à porter une charge et puis on est tout seul. Non, il y a toujours un autre animal, quelque chose, quelqu'un à côté. C'est joindre. Et bien sûr, ça fait penser à une servitude, à quelque chose. Mais c'est vrai que il y avait un joug qui était dur à porter. C'était ce que les pharisiens demandaient aux gens. C'était de suivre la loi. Et si on est attaché au joug de la loi, on n'avait pas beaucoup d'aide. Parce qu'on était plutôt accusé et puis on se rendait compte qu'on n'arrivait pas à accomplir la loi. Et dans Matthieu 23, Jésus reproche aux pharisiens et dit vous mettez de pesants fardeaux sur le dos des gens et lui c'était pas sa manière de faire du tout. 23:4. En parlant donc des pharisiens, des hommes de la loi, mais qui n'avaient pas le cœur de Dieu. Ils lient des fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Donc, pour les gens, ça leur parlait vraiment, quand ils parlaient du joug, parce qu'ils savaient ce que c'était que d'essayer d'accomplir ces centaines de règles énormes et qui ne leur donnaient pas de repos. Donc, il dit, prenez mon joug. Alors, ce joug-là va être différent sur vous. Et recevez mes instructions. Alors, pareil, là, on voit, ce sont des impératifs. Il dit, faites-le. Enfin, c'est un commandement. Il dit, prenez mon joug, recevez mes instructions. Et recevez mes instructions, ça veut dire apprenez de moi. C'est le terme... Mathétès, Montano, donc soyez mes disciples, apprenez à mon contact. Ça, j'aime ça. Donc, qui va être la deuxième personne ou le deuxième personnage à côté de nous dans ce joug? C'est Jésus lui-même. Apprenez à mon contact. Et ensuite, il dit, car je suis doux et humble de cœur. Et je dis, ça c'est bien, parce que des fois, par exemple, on peut se dire, on est avec quelqu'un, que ce soit au travail ou dans une œuvre quelconque, et donc on est quelque part attaché à cette personne, mais si cette personne est plutôt exigeante, méchante, dure avec nous, ça peut être au travail, ça peut être dans un autre cadre, on n'est pas très contente d'être sous le même joug, quoi. Alors que Jésus lui dit, moi je suis doux et humble de cœur. Mais parfois Dieu, on le voit comme ça. On le voit comme un maître dur, un maître qui exige des choses mais qui ne nous comprend pas. Lui, il est là, il dit, voilà, je suis saint, il faut que tu sois saint. Et voilà, et puis nous on est là. Et en fait, dans les termes de doux et humble de cœur, eh bien, ça parle donc que Jésus est humble. Il est modeste et il a de la considération pour autrui. Ça, c'est le cœur de celui qui est à côté de nous et qui porte ce joug. Et humble de cœur, ça parle de bassesse. Christ s'est abaissé, bien sûr, en venant sur la terre, en devenant un simple homme, en acceptant d'être limité, être qu'un homme. Pourtant, il était Dieu. Il n'a pas utilisé les attributs divins qu'il avait. Il a eu faim, il a eu soif, il a été tenté en toutes choses. Et simplement, sa relation avec Dieu, tout comme nous aujourd'hui, le faisait avancer chaque jour de sa vie. Donc il a accepté toute cette bassesse, alors qu'il était lui-même le créateur du monde, de la terre et de l'univers, quoi. Et donc il dit, moi je suis comme ça, hein, je suis humble, je suis bas, je suis là, je comprends vos états d'âme, et parce que j'ai accepté de le vivre carrément. Et donc cette personne-là, ce Jésus qui est à côté de nous. Doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Alors là, c'est plutôt... donc, c'est un petit peu différent de du premier repos. Là, je vous donnerai du repos. Là, il dit, vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc, c'est dans la vie de tous les jours, il y a quand même cette acceptation de la volonté de se mettre sous le joug de Jésus. Hein, le joug était toujours placé donc sur le cou parle toujours de la volonté, et comme Jésus a dit au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc c'est une décision un peu de chaque instant, et de prendre le joug de Jésus, c'est-à-dire, et puis recevoir les instructions, bien sûr, c'est à travers sa parole que je vais découvrir qui est Jésus-Christ. Une nécessité quelque part, parce que les fardeaux de la vie sont ce qu'ils sont, et il vaut mieux porter nos fardeaux avec un joug et celui de Jésus-Christ que les porter sans un joug. De toute manière, il y a toujours un joug, mais si on porte des fardeaux sans un joug, c'est très dur. Alors que on a vu que le joug équilibrait et nous permettait de porter des charges lourdes, mais plus aisément. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a toujours un joug. Ça va être le joug de notre propre joug à nous, ou alors le joug de Jésus-Christ. Mais on peut pas dire, ma vie, elle sera... je veux être libre de tout et tout va aller bien. Non, parce que les fardeaux seront là. Mais il y a le joug de Jésus-Christ qui va nous aider à porter donc ces fardeaux. Et donc, vous trouverez le repos pour vos âmes. Et ça va être notre force de tous les jours pour rencontrer donc les différentes situations. Et tout comme là, ce peuple juif n'allait peut-être pas être délivré de l'oppression des Romains, au niveau politique, au niveau social, ça n'allait pas changer. Mais par contre, dans leur âme, ils auront les ressources qu'il faut pour faire face aux différentes situations. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et donc il y a vraiment un contraste entre donc le joug doux et le fardeau qui est léger, puis ce qui était au début, vous qui êtes fatigués et chargés. Le mot qu'il y a pour charger, en fait, c'est le même mot que fardeau. Ça se voit pas là en français, mais le premier, en fait, ça veut dire qu'on est vraiment surchargé. Et le deuxième, en fait, c'est que le fardeau est léger, facile à porter. Donc, mon joug est doux, c'est aussi, le terme c'est bon. Et ce qui est un petit peu intéressant, c'est que le terme dans le grec, c'est Christos. Et ça fait penser à Christ, quand on entend. Enfin, moi, je peux pas vous dire tout en grec, hein, mais... quand il a dit « car mon joug est doux », c'est « car mon joug est Christos ». Et ça, qui est le joug, en fait, c'est lui-même. Enfin. Alors, je ne suis même plus les notes. Pardon. Ça y est, je suis revenue. Donc, « car mon joug est aisé, il est bon, il est doux ». Il est encore avantageux, il est utile, agréable, bienfaisant, bénéfique. Donc voilà le joug de Jésus-Christ. Il est vraiment utile pour la vie de tous les jours. Et le dernier terme, léger. Donc on a vu que c'est quelque chose de pas lourd, facile à porter. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 4 et verset 17, Paul reprend un petit peu ce terme-là. On va le lire un peu pour terminer. car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et donc le terme légère, légères afflictions, c'est le même terme que léger, là, car mon joug est doux et léger. Moi, je trouvais que ce passage, nos légères afflictions du moment, je trouvais qu'il allait fort quand même, Paul. C'est quoi les légères afflictions? C'était être en prison, laissé à demi-mort, enfin, la plupart ont été martyrs. Eh bien, c'est les légères afflictions. Pourquoi est-ce qu'il pouvait dire ça? Parce qu'il avait... Il avait le joug de Jésus-Christ. Jésus-Christ était avec lui. Sinon, humainement, ce ne sont pas des légères afflictions. C'est parce que physiquement, émotionnellement, moralement, spirituellement, c'était quelque chose de lourd. Mais en même temps, Paul, il est fait de la même nature que nous, quoi. Et quand on prend le joug de Jésus-Christ, eh bien, on va pouvoir dire nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, je trouve que cette invitation elle est vraiment pas à manquer. On ne doit pas la manquer. Parce que vraiment, c'est la clé pour nos vies, de venir, peu importe l'état dans lequel on est, parce que là, les termes nous l'indiquent bien. Hein, il n'est pas dit, si tu as péché, alors tu viens pas. Tu fais d'abord ta purification et tout ça. Non, tu viens, venez à moi. Et puis, on reçoit de lui, on est rafraîchi. On est restauré. Et après, dans la vie de tous les jours, on sait qu'il va y avoir les fardeaux. Ce n'est pas un repos, contemplatif, quel Dieu nous appelle, ou alors on va être coupé du monde extérieur. Non, c'est dans la vie de tous les jours qu'il y a ce repos auquel on peut goûter en prenant son joug. Il est avec nous. Et on voit que Moïse, aussi dans Exode, Dieu lui a assuré qu'il marcherait avec lui. Et il avait une relation très particulière avec Dieu, Moïse, parce que Dieu lui parlait de cœur à cœur, de vive voix. Et Moïse a pu lui dire, mais si tu viens pas avec nous, on n'ira pas. On peut être assuré, vraiment, que Jésus est avec nous à chaque instant et qu'il est doux, humble de cœur. Il n'est pas là, hautain de sa position, en train de nous dire « Tu fais mal ça ? Non, ça c'est pas bien. Oui, là, t'as échoué encore. Il faut faire ci, ça. » Non, il descend à notre position. Il sait qu'on n'est fait que poussière, mais il va nous amener avec lui si on accepte de se mettre sous son joug à lui. Parce qu'il est doux et léger, ce joug. Et